Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Rivenzi, je suis ravi de vous retrouver pour le 6e épisode des podcasts Live Histoire, deuxième partie de notre live de Noël, toujours en compagnie de Ultia et de Lou, mais cette fois-ci, laissez-moi vous conter une affaire judiciaire bretonne, l'affaire Seznec. Au début du XXe siècle, cette affaire a fait couler beaucoup d'encre et a connu ces dernières années des rebondissements inattendus. Alors prenez votre meilleure boisson chaude, un bon plaid et laissez-vous guider au coin du feu par cette histoire bien de chez moi. Bonne écoute à tous. J'avais envie de vous raconter une histoire aussi, parce que tu vois, moi j'aime quand... Pour moi, Noël, c'est aussi de raconter des histoires, tu vois. C'est aussi prendre le temps, discuter, se poser. On a beaucoup discuté, mais c'est chouette parce que moi, je me souviens que parfois, bah, moi, on se racontait des histoires, mon père me racontait des histoires, il me faisait des BD, etc. Et j'adorais ça. Et bah, je vais essayer de tant bien
que... Il lisait des BD?
Ouais,
oh, mais Astérix. C'est trop bien.
Il disait Astérix par exemple, ouais.
Et du coup, avec les images à côté.
Ouais, 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 de la frappe. Oh, trop bien. Ouais, ouais, ouais. Et donc, j'ai adoré ça, tu vois. Et on faisait ça, notamment, ben, parfois, ça nous arrivait de le faire ben, à Noël. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de vous raconter une histoire. Alors, pas forcément de Noël, mais une histoire qui se raconte beaucoup. C'est une vraie histoire, c'est une histoire vraie. Parce qu'on est dans le live histoire, donc je me suis dit qu'on allait prendre le temps de. J'allais prendre le temps de vous raconter une histoire vraie, une histoire qui vient de chez moi. J'ai déjà raconté en live histoire, mais ça fait très longtemps. Et surtout, il y avait beaucoup moins de gens qui suivaient à ce moment-là les live histoires. Mais c'est une histoire qui est assez étonnante et dont on parle encore beaucoup aujourd'hui en Bretagne. Parce que c'est une histoire qui se déroule en Bretagne. C'est une affaire judiciaire.
Ok.
C'est une affaire judiciaire. Vous êtes prêts?
Prête.
Vous êtes prêts? Ok. Il y a pas mal de rebondissements, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Si vous voulez repréciser des choses, etc., vous n'hésitez surtout pas, évidemment, ici. Hein. Je vous fais confiance. Alors, quand est-ce que ça se déroule, cette histoire? Alors déjà, cette histoire, géographiquement, se déroule chez moi, en Bretagne. Et c'est pour ça que cette histoire, j'ai entendu beaucoup, beaucoup quand, bah, dans les repas de famille. C'était une histoire qui revenait souvent sur la table, parce qu'il y a eu beaucoup de rebondissements aussi ces dernières années. Donc j'ai eu l'occasion de l'entendre de la part de mes grands-parents, de mes parents, de mes oncles, de mes tantes. Et donc je suis content de pouvoir la raconter aujourd'hui. C'est une histoire qui date de 1923. On est en 1923 à ce moment-là. Et on est fin mai 1923. Deux hommes sont à Rennes et s'apprêtent à prendre leur Cadillac pour partir pour Paris. Ces deux hommes... il y a d'un côté Guillaume Seznec, qui est l'homme, vous le verrez, le personnage principal de notre intrigue. Guillaume Seznec, il travaille dans une scierie à Morlaix, donc c'est vraiment au beau milieu du Finistère, et il est accompagné, alors lui c'est finalement un petit artisan, et il est accompagné d'un homme, lui, bien plus important, qui s'appelle Pierre Kemner. Vous avez l'image des deux hommes qu'on va pouvoir vous mettre, tu mets le lien, et après tu pourras utiliser les images, les flèches.
Oui, bien.
Donc, Guillaume Kemner, Pierre Kemner, qui est conseiller général du Finistère. C'est un mec, bam, quand même, qui a une grande stature, qui en impose, qui a un rôle important, finalement, et qui impose le respect dans le Finistère, dans cette période d'entre-deux-guerres. Ces deux hommes, comment est-ce qu'ils se connaissent, finalement? Eh bien, c'est parce qu'ils travaillent ensemble sur un trafic de voitures, qu'on appelle les Belles Américaines. Pendant la Première Guerre mondiale, si vous voulez, l'armée américaine avait laissé en place des vieilles voitures de l'armée qui faisaient l'objet de trafic, qui étaient récupérées par des Français sur place, et qui était ensuite vendu en URSS. Donc ça permettait de faire de l'argent assez facilement. Et donc Pierre Kemner et Guillaume Seznec se sont associés justement pour faire ce trafic de ce qu'ils appellent de belles américaines. Ces deux hommes donc partent en Cadillac, au matin même, direction Paris. Vous imaginez bien, quand tu vas à Paris en 1923, c'est beaucoup plus long que maintenant, quoi.
Même en
donc,
Cadillac.
Même en Cadillac, bien sûr. Donc ils y vont, ils partent tous les deux, et la voiture n'est pas tombée en panne. C'est insupportable, la voiture n'arrête pas de... Elle n'arrête pas de tomber en panne, ils sont obligés de sortir, en plus il pleut, la nuit va commencer à tomber, donc c'est terrible. Et il est aux alentours de 22h à ce moment-là, ils arrivent dans la ville de Dreux, et donc aux alentours, pas très loin de Paris finalement, et Pierre Kemner ne se voit pas terminer la nuit dans la Cadillac qui tombe en panne en permanence, et il dit à Guillaume Seznec, vas-y laisse-moi, je vais prendre, laisse-moi ici, laisse-moi à Dreux, je vais prendre le train direction Paris, et c'est bon. Et voilà, la nuit tombe à ce moment-là, et Pierre Kemner s'enfonce dans la nuit, et c'est la dernière fois qu'on verra Pierre Kemner. On n'aura plus jamais de nouvelles du conseiller général du Finistère qui disparaît à ce moment-là. Dernière apparition, l'histoire que je vous ai contée, c'est celle que Guillaume Seznec a racontée. Effectivement, puisque finalement, on est donc, je vous le dis, le 25 mai, trois jours plus tard, pas de nouvelles de Pierre Kemner. On ne sait pas ce qui s'est passé. Guillaume Seznec lui a décidé de rentrer à Morlaix, de faire voilà, il a laissé son pote à Dreux et lui est parti. Il n'est pas allé jusqu'à Paris.
Et, au final, il ne part pas à Paris.
Ouais, non, il est retourné en Bretagne, il est retourné à Morlaix chez lui. Mais sa famille s'inquiète un petit peu à Pierre Kemner. Elle se dit, mais attends, mais il est où quand même? On n'a pas de nouvelles. Il nous a pas envoyé de message quand il est arrivé à Paris. C'est bizarre. Donc, il demande à Guillaume Sesnec. Et Guillaume Sesnec raconte l'histoire que je viens de vous raconter là. Selon lui, c'est comme ça que ça s'est passé. 6 jours après, toujours pas de nouvelles. Donc, le frère de Pierre Kemner, son beau-frère et Guillaume Sesnec décident de signaler la disparition du conseiller général à la police de Rennes. Parce que c'est là qu'il est parti pour la dernière fois. Donc là, pour le coup, on est OK. Mais la presse, forcément, s'intéresse à cette disparition mystérieuse parce qu'on parle d'un conseiller général, qu'un homme qui a de l'importance, qui a de l'influence. Mais il a disparu, on ne sait pas où il est. Donc c'est assez étonnant et là, ça commence à faire parler dans les médias. Quelques jours plus tard, un télégraphe arrive chez la sœur de Pierre Kemner. Un télégraphe disant « Ne rentrerai pas à Landerneau avant quelques jours. Ne vous inquiétez pas, tout va bien pour moi. » Signé Kemener. Alors, sa sœur reçoit ça, elle le reçoit dans sa boîte aux lettres, etc. Elle dit « Bizarre, ça lui ressemble pas trop d'envoyer des messages. C'est pas sa façon de s'exprimer, c'est pas sa manière de... » Ouais, c'est un peu étrange, donc... Elle va voir avec son frère et son beau-frère la police de Rennes, et la police de Rennes est envoyée au Havre pour essayer d'enquêter justement sur cette affaire. Comment est-ce que ça a pu se passer? Ils vont au Havre, là-dessus ils ne trouvent pas trace de Pierre Kemner, la seule chose qu'ils trouvent c'est sa valise. Ils arrivent à mettre la main sur la valise de Pierre Kemner. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Un objet qui va être l'objet de toutes les discordes par la suite, c'est une promesse de vente. Une maison. Une maison qu'il a décidé de vendre à qui? À Guillaume Sesnec, juste ici. Alors c'est assez étonnant, une promesse de vente, c'est quand tu signes un papier disant que tu promets de vendre une maison, donc elle est à côté de Paimpol, très coin très sympa dans le Nord Finistère, etc. Sauf que quelque chose fait tiquer les policiers, c'est que la somme qui est demandée à Guillaume Sesnec est de 35 000 francs, alors que l'estimation de la maison est de 150 000 francs. Du coup ils se disent, non mais attends, comment est-ce qu'il peut accepter de vendre sa maison à 35 000 francs alors qu'elle en vaut... 5 fois plus. C'est quand même bizarre, quoi.
Donc forcément, et c'était une maison secondaire?
Ouais, c'est ça. C'était une maison qui était... Bah forcément, tu sais, quand tu es comme ça, conseiller général, t'as des biens, t'as de l'argent, c'est un peu des notables du coin. Donc c'est un petit peu louche, finalement. C'est un petit peu louche, cette histoire. Donc Guillaume Sesnec est convoqué, justement, par la police pour qu'il réponde, justement, de ce fameux papier qui a été trouvé. Il répond, Guillaume Sesnec, que oui, effectivement, c'était 35 000 francs qui étaient convenus, mais que ce fameux trafic de voitures américaines devait lui permettre de récupérer l'argent, donc soit 4 000 $, environ 95 000 francs de l'époque, qui serait venu compléter les 35 000. Donc ça aurait dû faire un petit peu près le chiffre, mais ça fait un petit peu tiquer. Ils disent qu'ils avaient rendez-vous avec un gars,
un notaire,
ouais c'est ça, avec un gars à Paris qui devait vendre les voitures. Donc les enquêteurs à Rennes et une équipe d'enquêteurs désormais débauchée à Paris va se mettre un petit peu à la recherche de ce trafic de voitures et du mec en question, du témoin. Aucune trace des deux, aucune trace du trafic de voitures, aucune trace non plus de ce mec qui devait récupérer la voiture. Donc tu te dis, attends, le mec est en train de nous raconter des cracks, c'est-à-dire qu'il nous dit que déjà il nous dit qu'il doit récupérer de l'argent un petit peu chelou, on doit être en contact avec un gars, on trouve pas le gars, et on trouve pas non plus le trafic de voitures. Ça commence à faire un petit peu beaucoup. Il est à ce moment-là arrêté et on va lui demander, donc à Guillaume Sesnec, il va être arrêté par la police et on va lui demander de faire une reconstitution des faits. Comme je vous l'ai raconté, vous savez, à Dreux, la voiture qui tombe en panne, etc. Machin. Ils arrivent à Dreux et en fait, Guillaume Sesnec, quand il arrive sur place, il dit « Ah non, mais c'était pas à Dreux, en fait, c'était à Oudan. C'est pas le même endroit. Dans une autre ville, tu vois. » Ok, chelou le gars. Pas au même endroit déjà. Ensuite de ça, il n'arrive pas à vraiment retrouver l'endroit. Ensuite de ça, comme je vous l'ai expliqué, Pierre Kemner a quitté la ville de Oudan, apparemment, après 22 heures. Sauf que on demande au chef de gare de Oudan, est-ce que déjà il a vu quelqu'un à 22 heures sur la gare? Absolument pas. Et est-ce qu'il y avait des trains qui circulaient à ce moment-là à 22 heures? Non plus.
Mais dernier la voiture, train, ils l'ont laissé où du coup à ce moment-là?
Et la voiture, c'était la voiture de Guillaume Sesnec, justement.
Oui, mais lui, il l'a laissé où? Parce qu'ils auraient pu retrouver ça au final.
Et bien justement, c'est assez intéressant. Finalement, la voiture qui faisait pas vraiment objet d'intérêt, il fallait bien la remplir d'essence à un moment donné, ouais. Tu vois. Et donc, du coup, ça se passe dans les Yvelines, c'est à que les Yvelines que ça s'est passé. Il y a un pompiste qui avoue avoir vendu de l'essence, justement, à Guillaume Sesnec pour qu'il fasse le plein, et que quand il a rempli son bidon d'essence, il y avait du sang sur ce bidon d'essence. Il y avait du sang, et quand ils sont allés perquisitionner la voiture de Guillaume Sesnec, ils ont été incapables de retrouver le cric de la voiture.
Ah.
Donc ils se disent, attends, il y a du sang sur le bidon, il manque le cric de la bagnole. Quoi de mieux pour fracasser la tête de quelqu'un qu'un cric ?
Et il manque un gars.
Donc ça commence à faire un petit... Bon, frérot. Frérot, ça va être relou. Sachant que les preuves commencent un petit peu à s'accumuler parce qu'il y a des gens qui disent avoir reconnu Guillaume Sesnec dans un train Paris-Le Havre. Et en fait, Guillaume Sesnec, vous pouvez le voir, on peut un peu le remarquer.
Il s'est pris un arbre. Hein.
En fait, physiquement, il a des traces de brûlure sur le visage parce qu'en fait, quelques années auparavant, sa blanchisserie avait brûlé. Et donc, des gens, du coup, il est reconnaissable physiquement, quoi, tu vois. Ouais. Quand tu vois que tu vois un mec avec la tête brûlée à moitié, tu dis, bon, je reconnais ce visage. Donc, les preuves s'accumulent contre lui. Et le 30 juin, donc un peu plus d'un mois après la disparition de Pierre Kemner, il est arrêté par la police. Et il va être déféré devant le parquet de Quimper. En plus de ça, les enquêteurs fouillent, ils essaient de comprendre un petit peu qui est derrière le personnage de Guillaume Sesnec. Et une partie de son entourage, notamment son beau-père, dit que ce mec-là, voilà, il a déjà volé des voitures, fraude à l'assurance, il est très lourdement endetté. Donc, le gars est compliqué. Le gars est une affaire compliquée. Donc, commence et va s'ouvrir le 7 juillet 1923, donc très vite, hein, assez rapidement, il va s'ouvrir rapidement son jugement. Et comme je vous l'ai dit, toutes les preuves l'accusent. Et en fait, ça fait les gros titres des actualités. C'est-à-dire que un homme qui a assassiné comme ça un homme important comme Pierre Kemner, ça devient un petit peu chaud. Donc 24 octobre 1924, c'est le...
Mais Kemner aussi, de base, il était un peu chelou quand même, parce que poste important, mais il trafique des caisses.
Tout à fait. Ouais, il a un petit peu, qui verse dans des trucs un peu étranges, mais finalement, ça reste quand même le conseiller général qui disparaît, donc ça reste étrange. Donc il y a plus d'une raison qui fait que cette histoire reste un petit peu louche. Donc, 24 octobre 1924, s'ouvre à Quimper ce fameux jugement, le tribunal, avec des jurés donc, qui l'attendent. Et Guillaume Sesnec risque la peine de mort, en fait. Hein. Il risque de tout simplement mourir pour avoir tué Pierre Kemner. Donc, ça commence à être chaud. Il y a juste... D'ailleurs, sur les 10 jurés, il y en a 9 qui vont voter pour la peine de mort pour Guillaume Sesnec. Il y en a un seul qui va décider de ne pas l'envoyer à l'échafaud.
Que ce soit l'unanimité à ce moment-là.
Ouais, c'est ça.
Okay.
Et pourquoi Il y en a un seul qui va décider de ne pas l'inculper pour la peine de mort. Il décide de ne pas l'inculper parce que on lui rapporte des histoires un petit peu étranges sur le fait que Kemner avait déjà agressé des personnes, des femmes notamment, et qu'il y avait des petits problèmes, le mec.
Donc, Sesnec, au final, il plaide non coupable.
Tout à fait. Alors Sesnec, pour lui, il n'a rien fait.
Ouais.
Il n'a rien fait, sachant qu'entre-temps aussi, on a retrouvé une machine à écrire chez lui, qui aurait servi à écrire le fameux télégraphe, tu sais, qui a été envoyé, et aussi le fameux acte de vente qui a été écrit. Donc tu vois, tout s'accumule finalement. Mais lui aura toujours plaidé non coupable. Toujours. Il aura tout fait pour essayer de... Il aura même soudoyé des témoins. Enfin bref, il est même maladroit, tu vois. Il en fait trop.
Ouais.
C'est-à-dire que, tu sais, il s'exprime mal. Il prend même pas d'avocat, le mec. Il prend pas d'avocat parce que selon lui, c'est tellement évident parce qu'il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de... Il y a rien. En fait, pour lui, c'est tellement évident qu'il prend pas d'avocat.
Il n'y a pas de corps du tout, en fait. Il n'y a même plus personne. En fait.
Donc pour lui, il est en mode non, mais j'ai pas besoin de prendre d'avocat, c'est bon. Il n'y a pas de corps, donc vous pouvez pas m'inculper.
Puis en plus, mais en fait, le problème aussi, c'est qu'il a mytho. Il a dit qu'il s'est arrêté à Dreux et qu'il a pris le train. Enfin, c'est pas vrai au final.
Bah oui, c'est ça. Ouais, il a mytho. Oui. Enfin, mais selon lui, il n'était pas dans ce train. Il a jamais avoué avoir été dans ce train, tu vois, pour le coup. Tout ce que les témoins rapportent, bah, c'est un petit peu. Voilà, c'est faux. Donc histoire difficile, quoi, tu vois. Histoire compliquée. Ce fameux juré l'empêche d'aller à la peine de mort. En revanche, il a envoyé en Guyane pour le bagne, parce qu'à l'époque, il y a encore le bagne. Le centre, voilà, l'enfer concentrationnaire du bagne. Et il va y aller pour plusieurs années. Il est inculpé à perpétuité, là, normalement. Mais il plaidera toujours son innocence.
Il n'est pas mort, là, encore ?
Il n'est pas mort. Non. Du coup, il est envoyé au bagne.
Non, mais là, aujourd'hui...
Ah, il est mort aujourd'hui,
oui,
il est mort.
Ouais,
1923,
oui, c'est ça.
Il est die. Donc il est envoyé là-bas. Exactement, il tient bien. Et vous imaginez que ça ne peut pas terminer comme ça.
Le clutch.
Imaginez que ça peut pas être si simple que ça, cette affaire, sinon je ne vous l'aurais pas raconté de cette manière.
Alors, Guillaume Sesnec qui a 130 ans aujourd'hui.
Il est avec nous ce soir, messieurs, dames.
La machine à écrire du crime.
Ah ouais, non mais non. C'était terrible. Mais C'est une affaire folle. Et puis, il faut se dire qu'à l'époque, ça fait vraiment les gros titres. Et tout le monde, toute l'opinion publique est persuadée que Guillaume Sesnec est coupable. Genre, il y a tout qui l'accuse. Même nous, tu vois, autour de la table, on est en mode, bon, frère, c'est chaud.
Ça devient un peu compliqué pour toi.
Ouais, ça devient un petit peu compliqué. Donc, il part au bagne en 1927, d'ailleurs, laissant derrière lui ses enfants. Il a deux fils, une fille, sa femme aussi, Marie-Jeanne, qui va laisser. Mais par contre, sa femme, elle, décidera, à partir de 1927, de se battre en permanence pour l'innocence de son mari. Et en fait, ce qu'elle va faire, elle va faire 4 demandes de révision du procès, qui seront toutes refusées.
Qui consiste à réévaluer toutes les preuves et
ouais,
compagnie.
Elle fait appel. Ouais, c'est ça. Elle fait appel en permanence, elle se bat tout le temps. Et en fait, ce combat qu'elle va mener va un petit peu lui donner le statut de mère courage, de femme courage, qui va essayer de se battre pour son mari, pour sa famille, pour ses enfants. Et au fur et à mesure, des éléments qui vont venir un petit peu, tu vois, remettre de l'huile sur le feu. Ils vont venir dire.
Aussi remettre en question ce qui a été acté par le passé. Quoi.
Ouais, c'est ça, exactement. Des choses qui, on se rend compte, étaient un petit peu étranges. Donc, elle va se battre 4 ans. Elle va mourir en 1931. C'est sa fille qui va reprendre le flambeau. Donc, tu vois, la famille essaie vraiment de se battre pour ça. Ils vont être aidés par des hommes de loi, des anciens juges d'instruction, des avocats qui croient aussi en l'innocence parce que pour eux, il y a trop de preuves évidentes. Tu vois. Pour eux, c'est limite, c'est le coupable idéal. Il doit y avoir autre chose que ça, qui doivent expliquer la disparition de Pierre Kemner. Donc, ils vont essayer sans réussir à le ramener, sans réussir à le faire, on va dire, à faire réviser le procès. Malgré tout, 20 ans plus tard, Guillaume Sesnec est libéré du bagne il revient en 1947. Donc t'imagines, il a passé 20 ans au bagne. En attendant, il y a eu la guerre mondiale qui s'est passée, lui était enfermé, travaux forcés pendant 20 ans.
Et sa femme qui est morte.
Et sa femme qui est décédée, et il retrouve donc ses enfants en 1947. Sa famille vit assez pauvrement, sa famille a même du mal, il y a même son fils qui décide de s'écarter de la Bretagne, qui quitte la Bretagne pour être loin de ces histoires-là, loin de ce tumulte qui existe pour la famille Sesnec. Donc, il y a des révisions qui sont demandées toujours par la famille. Et notamment, il y a une révision qui va mettre en avant un nouveau personnage qui s'appelle Pierre Bonny. Je crois que tu peux le trouver, il me semble, si tu avances un petit peu. Voilà, ça c'était.
Ah mince, ah oui, d'accord.
T'inquiète. Ça c'était les unes. Et tu avances, je crois que c'est après. Ça c'est les images du procès. Et ça c'est Pierre.
Pardon.
Avance.
Donc ça c'est la famille là du coup.
Oh, c'est ça, exactement, avec les 4 enfants. Et voilà. Et donc, ça, c'est Guillaume Sesnec quand il revient du bagne en 1947.
Ouf.
En mode, c'est un petit peu dur. Tu peux avancer. Et donc, ils sont aidés par Charles-Victor Hervé. Et ils vont mettre en avant Pierre Bonny, inspecteur stagiaire, au moment de l'affaire. Et en fait, ce monsieur va décéder pendant que notre
Attends,
ami...
Juste là, Charles Juge Hervé, là, ouais. Il a quelque chose à voir avec la
il
famille.
Il aide la famille. Il aide la famille.
Mais
en
il
gros,
les connaît. Enfin, c'est juste qu'il croit en l'innocence.
Ouais,
du gars
il croit en l'innocence parce qu'il entend justement parler de cette histoire avec Pierre Bonny. Et en fait, cet inspecteur, juste avant de mourir, il dira sur son lit de mort : Je veux que Sesnec soit coupable. Sesnec est coupable parce que je le veux.
Super. Les preuves, voilà. On verra plus tard.
Et en fait, le Charles Victor Hervé va essayer de mettre en doute justement l'utilisation de la machine à écrire. Il va. Beaucoup, il va aussi mettre en avant l'incapacité de ce Pierre Bonny qui a été aussi un collaborateur pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été donc qui était un personnage plus que controversé finalement. Et sous ces efforts-là, eh bien, ils vont continuer à réouvrir l'affaire, ils vont réussir à réouvrir l'affaire, mais toujours, Sesnec sera considéré coupable. En 1954, donc, décède Guillaume Sesnec, qui mourra coupable, malheureusement, mais qui n'aura toujours pas réussi à recouvrir son innocence, malgré le fait que les gens se battent pour ça. C'est alors son petit-fils, Denis Sesnec, qui va reprendre le flambeau de la lutte familiale. C'est lui qui va essayer de mettre en avant le fait que eh bien, son grand-père donc, était innocent. Parce que c'était le petit-fils préféré, on le voit sur la photo, je crois qu'il est à droite d'ailleurs, qui refusait de croire que celui qui l'avait vu vieux revenir du bagne était en fait un criminel. Et en fait, il va mettre en avant des éléments assez intéressants, comme quoi on va retrouver le fameux contact qui était le vendeur de voitures américaines. Ils vont le retrouver à Paris bien des années plus tard. Il dira juste ne pas connaître ni Sesnec ni Kemener, mais on met la main dessus. Il veut aussi prouver qu'en fait, le fait d'avoir tué Kemener, c'était une machination d'État. Parce qu'en fait, vendre des voitures comme ça américaines, c'était illégal à l'époque. Et Kemener était un homme, on va dire, de pouvoir et d'influence. Et donc, c'est l'État français qui aurait décidé d'assassiner Pierre Kemener et de faire porter le chapeau à Guillaume Sesnec.
Mais juste la maison là dans l'histoire, elle est devenue quoi ? Parce que
la maison, elle est restée toujours. Ben, pour l'instant, elle reste.
Propriété de l'État.
C'est invendu.
Ouais, elle restait invendue, tout à fait. Mais tu vas voir que dans notre dénouement, c'est assez. Ça reste un truc intéressant. Donc Denis Seznec va demander encore des demandes de révision, encore. Ça ne fonctionnera pas. Il va y avoir, en début des années 2000, va y avoir la garde des Sceaux, qui est bretonne, qui va demander à réouvrir l'enquête, mais toujours pas de révision, toujours pas de changement sur le jugement.
Quand ça, t'as dit ?
Guillaume Seznec, c'est au début des années 2000. Okay. Pendant les années 2000. Mais il va y avoir un nouvel élément qui va être ajouté en 2015. Et c'est un petit peu le dernier plot twist finalement de cette affaire. Je vous la fais court, hein, évidemment, je ne voulais pas faire trop long parce que j'avais fait une heure la dernière fois, pas faire une heure, mais c'est un plot twist qui est assez intéressant. Puisque, en fait, l'avocat de Denis Seznec, qui va l'aider justement dans ses démarches.
Photo d'après.
Ouais, vas-y, avance. Tout à fait. Denis Langlois, qui va être, qui est l'avocat de la famille Seznec, donc des petits-enfants, et qui avait défendu justement la thèse de Denis Seznec, qui était le crime d'État. Quand il travaillait pour la famille, il faisait. Mais il a écrit un texte testamentaire. À la fin, parce qu'il avait plus de 70 ans, donc arrivé au crépuscule de sa vie, il s'est dit qu'il était bon peut-être de dire toutes les informations qu'il avait
eues,
de faire un petit peu le point. Et il révèle un entretien. Un entretien qu'il a eu avec le frère de Denis Seznec, qui lui aussi s'était un petit peu éloigné de cette affaire-là, qui n'a jamais été dans les démêlés judiciaires de son grand-père. Et celui-ci lui avoue, ce petit-fils-là, lui avoue l'échange qu'il a eu avec son oncle, qui était le petit Guillaume, donc qui était le fils de Guillaume Seznec.
Donc, c'est Denis avant qu'on avait vu, c'est ça ?
Denis, tout à fait. En gros, Guillaume Seznec, il avait un fils qu'il appelait aussi Guillaume. Donc il s'appelait le petit Guillaume.
C'est celui qui a pris du recul.
Tout à fait. Et en fait, lui, si tu veux, il n'avait jamais parlé. Il n'avait jamais osé dire. Mais en fait, il raconte à ce moment-là à Denis Langlois une histoire qui lui est arrivée quand il était très jeune. Il avait à peine 10 ans. Et il explique un après-midi où il était avec sa mère à la maison familiale et il voit Pierre Kemner arriver. Lui, il joue à l'étage. Et il entend d'un coup sa mère hurler. Il entend d'un coup sa mère crier. Il descend et il voit étendu sur le sol, avec une mare de sang qui grandit, le corps de Pierre Kemner. Ils arrivent, ils rentrent et elle voit son père arrive et il révèle que c'est la première fois qu'il verra son père pleurer, parce qu'en fait il se rend compte que selon lui, et finalement c'est pas son père qui a tué Pierre Kemner, mais c'est bien sa mère Marie-Jeanne Seznec qui en fait qui aurait été tout simplement victime d'une agression sexuelle de Pierre Kemner, qui aurait tenté de l'agresser. En fait, elle l'aurait tout simplement poussé, elle l'aurait poussé. Il se serait, je crois, il serait cogné la tête et il serait mort, accidentellement.
Non mais attends. Et ça, donc là, on est sûr que du coup, c'est elle...
C'est pas sûr que c'est ça, mais c'est la dernière histoire, c'est le dernier rebond qui a eu lieu en 2015.
Et la Marie-Jeanne, là, elle est morte de quoi, du coup
elle... Marie-Jeanne, elle est morte d'épuisement, de fatigue, bien des années plus tard, quoi.
Mais pourquoi elle a pas juste dit, du coup
Parce que son mari ne voulait pas qu'elle soit condamnée à sa place. En fait, c'est lui qui s'est fait un petit peu condamner pour elle, finalement.
Et du coup, c'est cette histoire de voiture, de train, de...
Et ben en fait, en gros, c'est lui qui a emmené le corps et qui l'a fait disparaître. Et en fait, cette histoire de la maison invendue, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il semblerait que ce soit la famille Seznec qui ait écrit le faux promesse de vente, puisque, en fait, ils avaient confié leur argent et toutes leurs économies à Pierre Kemner, sauf que le papier dans lequel était écrit la fameuse promesse de vente était dans la poche intérieure de Pierre Kemner. Et en fait, en prenant ce papier... Celui-ci était taché de sang. Mm. Donc du coup, la signature était illisible. Et donc le papier inutilisable. Et
oh,
donc, donc ils étaient avec un cadavre sur les mains et avec tout leur argent donné à Pierre Kemner.
Ah ouais. Mm. Puis légitime défense à l'époque, c'était pas possible.
C'était ça. Donc c'était compliqué d'expliquer que un mec qui était conseiller général du Finistère était un mec qui avait tenté d'agresser.
Après, il y avait je ne sais plus qui dans l'histoire qui disait que justement il avait déjà eu des histoires avec
des
femmes.
Et en fait, c'est justement cette histoire-là qui remonte et que je vous ai laissé un petit peu. Mais en fait, il y avait des rumeurs qui couraient à ce moment-là en Finistère sur Pierre Kemner et sur le fait que c'était pas un mec qui était tout blanc non plus. Et c'est vrai que le fait d'être dans des trafics de voitures et de Cadillac, c'était un petit peu étonnant. Alors, je vous conseille évidemment de travailler sur cette histoire. Je vous ai fait en accéléré tous les rebondissements judiciaires entre la condamnation et un petit peu ce plot twist qui arrivait à la fin. Tu peux passer à la truc d'après. Et c'est d'ailleurs une histoire qui a été corroborée par les deux fils du petit Guillaume, que sont Jean-Yves et Gabriel Seznec, donc les petits-fils de Guillaume Seznec et les fils du petit Guillaume. Donc voilà, c'est une histoire qui fait encore beaucoup parler et qui a eu un rebondissement il y a 5 ans de ça. Donc quasiment 100 ans après l'histoire et après l'affaire. Donc voilà. Ça vous a plu ?
De ouf, mais c'est horrible. Enfin, quand on voit aujourd'hui tous les séries, les films et compagnie des enquêtes criminelles où on se dit, mais en fait, ça se résout en 2-2 et compagnie. Genre, à l'époque, quand tu sais que t'avais pas tout ça, t'as tous les éléments pour.
Ouais.
Mais en réalité, c'était assez, ça aurait pu être beaucoup plus simple à l'époque, quoi.
Bah ouais, c'est ça, mais tu te dis que.
Et ouais, il y a plein
rumeur,
de trucs que t'as l'impression que ça sera jamais résolu.
Mais le truc, c'est que c'est vrai que dès le début, tout portait vers lui comme coupable, quoi.
Puis il était un peu en soi, en fait. Au final, il est vraiment mort, ce mec.
Et en fait, en gros, et puis il a été très maladroit parce que tu vois, il était incarcéré à la prison de Morlaix avant son jugement à Quimper. Et si tu veux, il a essayé de faire venir des objets en dehors de la prison. Il a essayé de soudoyer des témoins. En vrai, tu vois, il a pas arrangé son cas non plus, quoi, tu vois. Et donc c'était un petit peu.
Et puis au final, il a vraiment fait disparaître le corps. Enfin, sur le papier, ce mec est vraiment mort.
Et le corps n'a jamais été retrouvé d'ailleurs.
Non, on n'a jamais eu de traces de Pierre Kemner. Jamais, jamais, jamais. On a cru à un moment donné réussir à le retrouver. On avait cru à un moment donné, parce qu'ils avaient fait des fouilles dans une ancienne maison, ils ont cru à un moment donné avoir réussi à... C'était en 2018, je crois. Ils avaient cru, après avoir fait des fouilles, réussir à trouver un os. Enfin, non, c'était un os de porc, du coup.
Ah. Et du coup, l'enquête est toujours en cours enfin,
Non.
Est
en fait, l'enquête
close.
Est terminée. C'est la famille qui a toujours poussé pour que ce soit le cas. Et d'ailleurs, sachez qu'il y a...
Attends, mais une famille a le droit de demander quand une enquête est fermée.
Alors, les enfants ont le droit. Le problème de Denis Seznec, c'est que vu qu'il était petit, quand tu es petit-fils, tu ne peux pas demander la réouverture d'un procès pour un de tes grands-parents. Et en fait, c'est grâce à la garde des Sceaux bretonne, justement, qui était d'origine bretonne, c'est grâce à elle qu'ils ont réussi à réouvrir une nouvelle fois l'enquête et à créer un nouveau rebondissement judiciaire. Avec Denis Langlois, le fameux avocat que je t'expliquais.
Ok.
Donc voilà. Donc, c'est une histoire qui est particulière. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a quelques semaines, j'ai reçu un message de la filleule de Denis Seznec.
Quoi ?
Ouais, qui m'avait envoyé un message en me disant j'ai vu ta vidéo, donc elle est disponible. Je l'ai raconté une première fois, ça dure une heure. Elle m'a dit la vidéo est super, super bien expliquée, super bien détaillée et tout. Forcément, moi, ça me touche particulièrement parce que c'est une histoire de famille, quoi, tu vois. Et elle me dit je la montrerai la vidéo à Denis, donc le petit-fils de Guillaume Seznec.
Le mec a ses entrées.
C'est énorme.
Voilà, c'est le petit épilogue et donc cette histoire que je vous ai racontée. C'était assez ouf. Donc
c'était trop bien.
Ouais, voilà. Mais c'est comme je vous dis, c'était une histoire que nous on se racontait un petit peu aussi comme ça et qui
Du coup, vu que ça fait longtemps que vous la racontiez en 2015 quand il y a eu un rebondissement, tu devais être fou, quoi.
Et en fait, je me souviens qu'en 2015 c'était là qu'on en avait reparlé,
ah,
etc.
Oui.
Notamment, mais il y a eu d'autres rebondissements dans les années 2000 et je me souviens que ça parlait un petit peu, les grands en parlaient un petit peu, quoi. Tu vois, après, je sais pas à quel point ils connaissaient l'histoire, à quel point ils extrapolaient selon que les familles en disaient à l'époque, quoi. Tu vois, t'avais pas forcément internet, donc t'avais pas forcément toutes les infos que moi j'ai pu glaner dessus. Mais c'était une histoire super intéressante à étudier. Et puis, en plus, c'est une histoire de chez moi, tu vois, donc ça me parlait aussi un petit peu, quoi. Je connaissais les lieux. C'est une histoire qui est encore en cours, en plus.
Enfin,
on a découvert un truc en 2015 encore, quoi, tu vois. Donc, je me dis, punaise, l'histoire est folle, quoi. Donc, voilà.
Ok,
voilà. Bah, tant mieux, je suis content que ça vous ait plu. Je suis content que ça vous ait intéressé. Pour continuer cette émission, il reste une vingtaine de minutes environ. Est-ce qu'on se termine sur le jeu ? Est-ce qu'il nous reste un jeu encore, je vous le rappelle ? Est-ce qu'actuellement, pour terminer l'émission...
Je mène 4-2, je crois.
Non, Ulti amène actuellement 4-2 dans cette émission. Dans ce jeu, nous faisions sur bien les filles. Et là, on fait sur les idées reçues. Sur les idées reçues.
Et je pense qu'il est coupable.
Non. Les idées reçues dans l'histoire.
Ok.
Les idées reçues dans l'histoire, par exemple, est-ce que Cléopâtre descend des pharaons ? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ?
Faux.
T'as une explication aussi ? Si t'as une explication, on peut réfléchir pour un point bonus. Non ? Faux ? Ok, c'est faux, effectivement, parce qu'en fait, Cléopâtre descend de famille grecque. Issue des généraux d'Alexandre, en fait. Donc,
okay.
Elle est grecque.
Je le savais en plus, mais je ne sais pas.
Les Ptolémées, tout à fait, exactement.
Il faut oser.
Très, très bon. Très, très bon. Et tu le savais et tu l'avais. Donc, là, je vous ai préparé 5 idées reçues sur l'histoire. Il faut que vous me disiez si c'est faux ou si c'est vrai, bien sûr.
Okay.
Première question. Galilée a été condamné à mort parce que la Terre était ronde. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ?
C'est faux.
C'est vrai.
Et pourquoi est-ce que ce serait faux ? Tu peux essayer de choper un bon bonus.
Alors je pense pas que je suis pas sûr qu'il ait été condamné à mort pour ça. Je sais qu'il y a eu bordel avec lui, mais il n'a pas été condamné à mort, il me semble. Non, pas là-dessus, pardon.
Non. Ah, je te donnerai pas le point bonus, mais effectivement faux. Il n'a pas été. D'ailleurs déjà, il n'a pas été condamné à mort. Il a été condamné à résidence pour ad vitam aeternam. Et en fait, il n'a pas été assigné à résidence pour ça. Il aurait été condamné à mort, pas parce que la Terre était ronde, mais parce que la Terre tournait autour du Soleil. Pas qu'elle était ronde. Le fait que la Terre était ronde, on le savait depuis l'Antiquité. Mais c'est surtout que le fait que la Terre tournait autour du Soleil, c'est différent.
Est-ce qu'elle est vraiment ronde, du coup, la Terre, là ?
T'as pas de point, toi. Allez.
Ça
t'auras pas de point, t'auras pas de point.
Okay, ouais.
Très, très bonne réponse, du coup, tout à fait. Donc, en fait, il y avait deux idées reçues dans une, finalement, qu'on pouvait trouver. Ouais. Il n'a pas été condamné à mort et c'est pas parce que la Terre était ronde. Donc, ça fait un point pour toi, ça fait 4-3.
5-3.
Non.
Ah non, c'était l'exemple.
C'était l'exemple. Reste très, très calme. Très flexible sur les appuis. Einstein était nul en mathématiques. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
C'est vrai.
Eh bien, c'est faux, c'est complètement faux, mais bien sûr.
C'est pas un cancre, le bouffe, là ?
Pas en mathématiques, en tout cas.
Ah bon ?
Okay. Sachez qu'à 15 ans, il maîtrisait le calcul intégral et différentiel, c'est ce qu'il disait. C'est un article qui a été écrit, qui a fait beaucoup parler, et auquel il a réagi après rapidement, mais l'article est resté, vous le voyez, dans les...
J'étais persuadé que c'était vraiment le cancre à l'école.
Moi aussi, j'avais lu ça, mais... Ouais.
Alors peut-être qu'il était cancre maths, dans autre chose, mais pas en mathématiques.
C'était sur Doctissimo, j'aurais peut-être pu m'en douter.
Ah oui, si t'avais lu l'info sur Doctissimo, tout à fait. Très, très bonne réponse. Autre question. Alors, l'image du Père Noël ne vient absolument pas de la campagne de Coca-Cola. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
C'est vrai.
Elle ne vient absolument pas de cette campagne. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
C'est vrai.
Mais vous avez tous les deux une bonne réponse. Ça fera donc.
Par contre, t'es horrible à tourner tes questions comme ça. Hein.
Bah oui, bah, je sais.
C'est vraiment horrible. Je réfléchissais aussi à la construction de phrase.
Sinon, il y a que des faux. C'est pour ça. Et vous avez raison tous les deux. Donc ça fait 5-4.
Du coup, le prochain est vrai.
Non. Pourquoi tu dis ça? N'importe quoi.
Sinon, il y a que des faux.
Le Père Noël rouge n'est absolument pas. Il est arrivé. La campagne de Coca-Cola date de 1930, donc c'est beaucoup plus lointain. Alors que le Père Noël rouge, lui, vient d'un illustrateur américain du nom de Thomas Nast, qui lui a donné ses couleurs en 1863. Donc
encore avant.
Ça remonte bien avant.
Bien avant. La Marseillaise n'est pas une chanson de Marseille. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
C'est vrai.
C'est vrai.
Est-ce que quelqu'un a un point bonus à me donner?
Elle vient d'ailleurs.
Ouais, mais est-ce qu'elle viendrait d'où?
J'ai peur de dire la réponse.
Tente quelque chose. T'as déjà un point.
Tu te mutes et tu ne le dis qu'à nous.
C'est ça.
Ouais.
Vas-y. Mute les trois comme ça.
Merci.
Rebonjour.
Elle venait effectivement de l'Est de la France, de l'armée du Rhin. L'armée du Rhin qui ensuite...
Ah mais oui, c'est
et ensuite ça s'est popularisé.
Ouais, c'est presque ce que t'as dit en plus.
En fait, c'était pas loin, c'était close. C'était close en vrai, c'était close.
Non mais je savais que c'était lié à la guerre en fait, mais je me suis trompée d'endroit.
L'armée du Rhin, l'armée révolutionnaire donc qui...
De beaucoup d'endroits.
C'était presque ça finalement, c'était pas tout à fait.
Moi j'accorderais le point.
C'est border. Non, c'est border. Donc ça fait 6 à 5. 6 à 5, tout à fait. Là on rentre dans les... j'ai une petite idée reçue cette fois-ci, c'est un... Ah ça c'est pas vraiment histoire, c'est plus cinématographie. Tim Burton n'a pas réalisé L'étrange Noël de Monsieur Jack.
C'est faux.
Eh bien, c'est une très bonne réponse de la part d'Ultia
Carcinet. Il a fait le scénario.
Et effectivement, c'est une très, très, très bonne réponse. Henri Selick est le réalisateur de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Très, très bonne réponse de la part d'Ultia là-dessus. Tout à fait. Et c'est Tim Burton qui a écrit le scénario, justement. Tout à fait. Et donc, c'est une victoire. Je pense que c'est une victoire désormais validée pour Ultia qui part avec le Père Noël en chocolat.
Merci,
Final Countdown. Mais on peut pas, parce que sinon on est DMCA.
On peut le mute, on le met juste pour nous.
L'angoisse.
Mais ils sont comme ça, trop gênants.
Mais genre, Celebration Royalty Free Music.
Ouais, Celebration Royalty Free Music, et on se régale. Et ce sera suffisant, elle sera suffisante comme ça. Très bien joué de la part de
vraiment.
Merci.
Trop bien joué.
Oui, regarde, Celebration Music.
Vas-y, mets une petite musique célébration gratuite là.
Oh, ça fait Noël en plus.
C'est vraiment pas
dingue. C'est à l'image de ta victoire.
Okay, okay,
et c'est une victoire monumentale.
C'est à l'image de ta
baisse
victoire.
Baisse la musique. Et c'est une victoire monumentale pour.
Merci.
J'ai l'impression d'être dans Sims. C'est horrible.
C'est une musique du Creative Sims, genre, c'est trop bizarre. Dans le menu construction des Sims.
C'est nul.
Merci.
Comme les Sims.
Vous gagnez une encyclopédie Larousse. Bravo.
C'est tellement ça. Attends, vas-y, baisse le son.
Avec notre partenaire Syntag, les Miss.
En tout cas, bien joué, Lou, parce que vous remportez. Regardez ce que vous remportez avec notre partenaire.
Un dictionnaire Larousse. Une encyclopédie depuis 1900.
Vous allez vous régaler, Lou, avec
oui,
ça.
Oui, merci beaucoup.
Et bravo. Un an de coiffeur Syntag.
Bravo, félicitations.
C'est pas comment le prendre celui-là. C'est... Parce que lui, il n'était pas écrit. Celui-là, il est... Non.
Si.
Je sais pas comment
c'est
le
prendre. C'est le sponsor des Miss.
Très bien joué, très bien joué. Est-ce que, est-ce que pour le plaisir, je vous fais un petit qui suis-je historique? Le petit qui suis-je, c'est un jeu assez simple, finalement. Je lis le CV d'une personnalité historique, vous devez retrouver la personne.
Oh, ça va faire mal, ça.
C'est, en vrai, elle est facile à trouver, celle-là. Vraiment, elle est facile.
Ok.
Comme ça, on se termine là-dessus et puis ce sera plus régal. Je suis, ça c'est pour le plaisir, un personnage historique ayant vécu aux alentours du 5e et du 6e siècle après Jésus-Christ. Les premières traces que l'on trouve de ma vie se trouvent dans les Annales Cambriae et l'Historia Britonum. Ma légende se forge, elle, à travers de nombreux écrits médiévaux. Selon eux, mon empire immense pour l'époque s'étend du Danemark à la Norvège en passant par l'Islande et la Grande-Bretagne. Un empire sur lequel je règne avec un esprit chevaleresque de renom. Qu'est-ce que tu fais ?
Non, rien.
Mon histoire, comme on la connaît aujourd'hui, est écrite par un certain Chrétien de Troyes au XIIe siècle. Il y évoque mon père, Uther, ainsi que la ville où je suis né, Tintagel.
Seigneur. Arthur ?
Oui, la légende. Oui, le roi Arthur. Très bonne réponse.
Ça a donné les noms en même temps.
Bah, en même temps, tu l'avais toi avec Tintagel ?
Ouais.
Non, il l'avait pas. Il faut donner les noms, mais c'est pas simple, hein. Faut l'avoir bien joué. Le seigneur clairvoyant, je suis surtout inspiré par la quête d'un objet, lui aussi tout aussi légendaire que moi. Aidé de mon épée sortie d'un rocher, je crée l'ordre de la table ronde entourée de mes chevaliers, comme Lancelot ou Perceval,
Arthur.
Avec qui je cherche un ensemble, le fameux
Camelot
Graal.
Tout,
je
ouais,
suis.
Que...
Ça, j'avais, du coup.
Ah oui, t'avais la suite. Mais, ouais. Mais même dans Camelot, il y a les noms.
Tintagel, etc.
Ouais,
Tintagel
et tout.
Pourtant, je croyais que tu regardais Camelot, toi.
Ouais, mais pas. Je disais pas les bouquins.
Tu as tendance à dire que c'est facile, mais il n'en est rien. Il n'en est absolument rien.
Et j'avoue que pareil, il m'a perdu. Tu m'as perdu avec la Norvège et tout.
Ah, c'est le but. C'est le but un peu de vous perdre aussi. Alors, j'aurais pu commencer. En fait, je sais que si tu avais parlé de Grande-Bretagne tout de suite.
Bien sûr.
Voilà, mais le but c'était d'abord de commencer par la Norvège et ensuite je déplaçais vers l'ouest.
Comme ça, tu m'as fait give up en plein milieu de ta phrase et j'ai pu écouter la suite.
Non, mais parce que souvent,
super
dans les qui suis-je, on est comme ça. Mais je sais que je vous referai des qui suis-je pour la première fois. Si on se refait un petit truc comme ça. Mais voilà. Est-ce que on s'est pas trop squeezé. Les films de Noël, on a fait le tour hein, tout à l'heure. Toi, t'avais préparé des petits résumés, etc.
Ouais,
mais t'avais
mais
dit ce que t'avais à dire.
Du coup,
finalement.
J'ai dit Klaus et puis le Noël de Monsieur Jack.
Très cool.
On va pas le présenter
on l'avait refait, c'est parfait. Est-ce que toi, t'avais un truc comme ça, je squeeze
personne. Juste que Père Noël est une ordure, à la limite, que je peux rajouter.
Oui, c'est vrai, dans un autre style aussi. Dans un autre
les Gremlins aussi.
Ouais, les Gremlins aussi. Ouais.
C'est trop bien.
Gremlins, j'ai jamais vu, tu vois. Gremlins.
C'est trop bien, il faut que tu regardes.
Les Goonies, est-ce que vous avez vu
les Goonies? C'est fantastique.
Ah ouais,
ça,
j'ai pas.
Oh là là,
ah putain, j'ai essayé de regarder l'autre jour, ça m'a pas intéressé, mais faut que je teste les Goonies alors.
Ah, pourtant, je l'ai vu il y a pas si longtemps. Il était sur Netflix, je l'ai vu et il a pas si mal vieilli, je trouve.
Ok. Très bien. Eh bien, écoutez, on touche à la fin de ce live histoire, le dernier de l'année 2020. J'espère qu'il vous a plu.
Je finis ma bouche.
D'accord. Ok, on va se tourner vers Lou. J'espère que ça t'a plu, Lou, en tout cas.
Ouais, mais la fin est un peu dommage.
La fin est un petit peu frustrante.
Entre une défaite.
En vrai, j'étais super content de vous inviter et je suis trop content d'avoir eu un petit peu ce format original parce que c'est un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude sur les lives d'histoire. Le but, c'est de discuter un petit peu, de parler de nos rapports avec l'histoire, de parler de nos rapports avec Noël aussi et de pas forcément de parler de l'histoire de Noël, c'était pas l'intérêt finalement, mais c'était plus de recréer une ambiance et de passer une bonne soirée tous les trois. Et j'espère que vous avez kiffé aussi dans le chat, évidemment. Que c'était et avec une petite histoire en plus, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup, ici, Ultia, d'être venu.
De rien.
En dernière minute, du coup, je suis désolé, je croyais que c'était sur Discord.
Par contre, la qualité de son Discord est incroyable ce soir.
Oui, la qualité de son Discord, c'est dingue.
On a vraiment l'impression de.
C'est dingue. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. C'était vraiment trop, 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 trop bien.
Merci à toi, c'était très intéressant.
C'était très intéressant. Elle fait pas la liaison.
Pour l'invitation.
Merci beaucoup, Lou, en tout cas, Lou, du coup, avec qui je travaille beaucoup, donc qui a sa chaîne Twitch, d'ailleurs, twitch.tv/Django. Avec un W à la fin, donc si vous voulez aller checker, n'hésitez pas. Et avec qui on travaille beaucoup sur les lives histoire pour trouver les invités, les idées. Et c'est vraiment super agréable. Et merci beaucoup d'avoir été là pour cette dernière de l'année. Et évidemment, Ultia, twitch.tv/Ultia avec les Ratus qui étaient nombreux dans le chat ce soir.
Oui,
ça fait,
ils étaient tous
ça
là. Régale.
Ils étaient là. C'était exceptionnel. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Prenez soin de vous, bien sûr. Les lives histoire, eux, reviennent pour la première semaine, lors de la première semaine de 2020. Il y aura une petite pause de quelques semaines. Voilà, les fêtes, on en profite, bien sûr. Je serai en Bretagne. L'épisode que vous avez vu ce soir sera évidemment en podcast. Les autres podcasts sont eux d'ores et déjà disponibles juste en dessous, donc n'hésitez pas. Et merci à ceux qui nous écoutent en podcast, évidemment, en 2021, bien sûr. 2020, 2021. Allez, ciao tout le monde, passez une excellente soirée. Ciao.